La suite de nos lectures de différents sociologues. Et donc ce soir, nous pencherons nos fronts studieux sur la pensée d'Auguste Comte. Auguste Comte, ordre et progrès. Vous le savez sans doute, la devise ordre et progrès est celle du Brésil. Ce qui donne une vision de l'étendue de l'influence d'Auguste Comte. Auguste Comte, que plus personne ne lit, que beaucoup d'entre vous certainement ignorent et vont découvrir ce soir, a été un penseur dominant, essentiel, tout au long du XIXe siècle. Et l'influence du positivisme, la doctrine qu'il a fondée lui-même, et à laquelle il a donné son nom de positivisme. Donc la doctrine du positivisme a influencé non seulement le Brésil et les mouvements de libération en Amérique du Sud, mais a influencé par exemple en France le radicalisme. Tout le monde a oublié ce que c'est que le radicalisme. Mais il n'empêche que le radicalisme a dominé la France de la fin du 19e siècle à... Enfin, à Lyon, Édouard Herriot est mort en 1953, et le radicalisme a encore de belles heures devant lui à Lyon. Et puis autour d'Auguste Comte, on trouve des figures telles celles de Littré, de Ferdinand de Lesseps, c'est-à-dire des figures qui s'illustrent par l'idée du progrès fondé sur la science. Littré, c'est la conviction que on peut attendre un immense progrès des lumières de la connaissance. Ferdinand de Lesseps, c'est quand même celui qui a ouvert le canal de Suez et le canal de Panama. C'est donc celui qui a ouvert le monde et par une espèce de génialité technicienne. Et donc la figure que nous allons parcourir ce soir à quelque chose d'un peu biscornu, énigmatique. Sans doute Auguste Comte a des traits assez pathologiques, je n'insisterai pas dessus. C'est un fondateur de théorie avec l'ambition d'une théorie totale, définitive. Donc c'est une littérature absolument soporifique qui est faite d'un ton extrêmement sentencieux, doctrinaire, établissant de manière définitive des vérités sur lesquelles l'humanité tout entière, avec un grand H, parce qu'on n'est pas avare de majuscules chez Auguste Comte, l'humanité tout entière donc pourrait se fonder. Donc il y a des côtés pathologiques comme dans tous les grands systèmes. Mais on ne s'arrêtera pas à ces côtés pathologiques quand précisément on voit d'abord la fécondité de cette pensée, et la fécondité est un bon signe pour une pensée, et puis les questions qu'elle nous permet d'aborder et d'éclairer assez souvent. Donc si Auguste Comte figure dans ce petit parcours intitulé « Les grandes sociologies », c'est évidemment pour une raison objective et simple, c'est que c'est lui qui a créé le mot. Donc le mot « sociologie » est un mot de la plume d'Auguste Comte, et c'est lui qui a donné à ce mot tout son lustre. Même si maintenant, évidemment, cette notion de sociologie s'entend autrement, et nous le verrons avec les successeurs, se tourne vers des démarches beaucoup plus procédurales. La conception que Auguste Comte a de la sociologie n'est pas une conception procédurale, c'est une immense théorie de ce qu'est la société, ou plutôt de ce qu'elle devrait être. Car ce n'est pas tout à fait un hasard si Auguste Comte est celui qui a produit le mot de sociologie. Car la sociologie naît au moment où on se demande qu'est-ce que c'est diable qu'une société. D'ailleurs, en général, c'est mauvais signe quand quelque chose devient objet de science. Et quand on fait des livres sur la fête, c'est qu'on rigole plus beaucoup. Et donc, si on fait une sociologie, c'est qu'on est en train de se demander, mais qu'est-ce que c'est diable qu'une société ? Et pourquoi se demande-t-on qu'est-ce qu'une société ? Pour deux raisons que je résume à grands pas et de manière désinvolte, je veux bien préciser si vous en avez besoin. Pour deux raisons, la première, c'est que la modernité est passée par là. Vous savez qu'une des caractéristiques de la modernité, c'est la réduction du complexe au simple. C'est le mot d'ordre de Galilée, c'est le mot d'ordre de Descartes. Et cette réduction du complexe au simple, comprise concernant les problèmes de la société, donne Hobbes, c'est-à-dire quelqu'un qui dit, eh bien, c'est une citation approximative de Hobbes, mais c'est son propos. Hobbes nous dit, la société est une horloge, je vais la démonter jusqu'à son dernier rouage. Et puis, quel est le dernier rouage de cette horloge ? Eh bien, c'est l'individu. Donc la modernité, c'est la démarche qui tente de comprendre le tout par l'élément et de comprendre l'élément comme une structure engendrée à partir, comprendre le tout comme une structure engendrée à partir de ces éléments. C'est pourquoi j'avais insisté dans la première rencontre autour d'Aristote sur le fait que chez Aristote, le tout est ordonné. Vous êtes peut-être demandé pourquoi j'insistais tant sur le fait que, d'une part, pour Aristote, le tout est ordonné, le tout est ordre, et puis que, d'autre part, le tout vaut comme fin. Donc, si le tout vaut comme fin, pour Aristote, le tout est premier. Parce que pour Aristote, la fin est première. Et donc, les parties existent pour Aristote selon l'ordre du tout, ordonné au tout. Waouh ! La modernité nous fait que les forces singulières, individuelles, qui se heurtent quelque peu au hasard, ne produisent qu'une somme provisoire, que des équilibres provisoires. La société va être pensée comme équilibre de force. Nous en sommes là. Et on va se poser la question de savoir comment ces équilibres de force se résolvent. C'est ce qui donne la philosophie du contrat. Comment équilibrer les rapports de force. Mais cette image des rapports de force, il faut penser qu'en amont, elle nous vient de la physique moderne, c'est-à-dire de la physique de Galilée et d'Aristote et de Descartes, qui pense précisément tout en rapports de force non orientés, et qui produisent des résultats qui sont des équilibres, mais qui n'ont pas de fin par elles-mêmes. Ça, c'est le premier épisode. Mais il se trouve que cette doctrine, c'est un fait inouï dans l'histoire, a eu des travaux pratiques. Car les travaux pratiques issus de la philosophie de la modernité, c'est la Révolution française. Puisque la Révolution française, c'est au fond l'application de l'idée selon laquelle on pourrait démonter la société et la reconstruire. Et que l'on pourrait, à partir d'une table rase, où émergeraient des individus souverains, le citoyen, on pourrait reconstruire un ordre social plus juste, plus harmonieux, plus rationnel. Auguste Comte naît en 1798. Il est donc dans son adolescence et sa jeunesse directement marqué par les conséquences de la Révolution française, comme tous les penseurs politiques du 19e. Benjamin Constant, Tocqueville, Marx, tous ces gens-là sont des gens qui se demandent quelles leçons tirer de ce grand événement incroyable qui a été la mise à bas d'une société avec la prétention d'en reconstruire une. Quand Hobbes dit « la société est une horloge, je la démonterai jusqu'à ses derniers rouages », moi ça me fait toujours penser à ma jeunesse quand je démontais les mobilettes, je savais démonter les mobilettes, les remonter, c'est une autre affaire. Et il n'était pas sûr que la mobilette résultât simplement de l'association des éléments que j'avais soigneusement disjoints. Voilà, la Révolution française a soigneusement disjoint la société en individus. Que va-t-on en faire? Alors, il y a plusieurs manières d'interpréter l'événement. Louis de Bonald dit « La Révolution française nous fait parcourir toute l'histoire de l'humanité en 10 ans ». Et il a raison. Car en 10 ans, on a parcouru à peu près tous les régimes possibles. Mais, en gros, les penseurs traditionnalistes sont ceux qui vont exprimer la nostalgie aristotélicienne d'un moment où la société formait totalité, une totalité inscrite dans sa mémoire et qui n'était pas simplement défaite en marqueterie d'individus. En gros, les penseurs libéraux sont ceux qui vont accepter les leçons de la Révolution française et dire, eh bien, la liberté réelle, c'est la liberté des individus. Et ces individus vont pouvoir, de manière contractuelle et associative, parvenir à un équilibre rationnel. Et donc, c'est comme ça que Benjamin Constant, Tocqueville sont des lecteurs de la Révolution française. Et puis, les socialistes penseront que, effectivement, on doit pouvoir fonder une nouvelle société. Jeter les bases d'une société qui soit juste, ordonnée et raisonnable, plutôt que d'être l'héritage de coutumes obscures, voire obscurantistes. Donc tous ont à se poser la question, que faire de l'héritage de la Révolution? Et Auguste Comte, donc, qui naît en 1798, qui est polytechnicien en 1814, fait partie de ceux, de ces penseurs de la Restauration, hein, époque sublime, sublime la Restauration. Vraiment, tout ce que nous vivons actuellement peut être lu au moment de la Restauration. Donc fait partie de ces penseurs de la Restauration qui ont à se poser la question de savoir que faire de la Révolution. C'est pourquoi il est intéressant que la devise d'Auguste Comte, la devise positiviste, soit « ordre et progrès ». C'est-à-dire qu'Auguste Comte élabore un système dont il souhaiterait qu'il exprimât la stabilité de l'ordre que la Révolution a défait et en même temps les espérances d'une société plus rationnelle vers laquelle la Révolution était tournée. Si bien qu'on peut faire d'Auguste Comte une lecture conservatrice et une lecture progressiste. Et ça n'a pas manqué. Le lecteur conservateur le plus connu d'Auguste Comte, c'est Maurras. Maurras était conscient, était disciple d'Auguste Comte, et attaché comme Auguste Comte au fait qu'il n'y a pas de société sans mémoire, et que la commémoration est le phénomène fondamental du lien social, et qu'il serait anarchique, c'est le mot qui revient tout le temps sous la plume d'Auguste Comte, il serait anarchique que de vouloir une société qui soit exempte de toute mémoire et fasse table rase du passé. La société est commémoration, elle est l'acte par lequel les individus se haussent dans la réalité de l'humanité, c'est la thèse conservatrice essentielle. Mais d'un autre côté, Auguste Comte, polytechnicien, héritier de la science moderne, est celui qui est connu aussi pour avoir insisté sur l'extrême fécondité de la science, la positivité de la science. Positivisme, ça veut dire nous nous attachons à des connaissances positives, c'est-à-dire observables, sérieuses et fructueuses. La science, à la différence de la métaphysique, à la différence des croyances anciennes que l'on ne pourrait pas garder telles quelles, a fait la preuve de son efficacité. Comment donc concilier une société qui a des armes extrêmement puissante en vue de son efficacité et de son progrès, avec le respect des traditions. Il ne vous échappe pas que cette question est la nôtre pour beaucoup d'entre nous. Vous avez beaucoup de gens qui se présentent comme extrêmement attachés à la valeur mémorielle, à la tradition, etc., mais qui n'en utilisent pas moins sans barguigner tous les moyens qui font exploser ces traditions, à commencer par nos téléphones portables et nos automobiles. Et donc, la question, c'est bien, comment peut-on faire vivre simultanément ordre et progrès ? Es-tu conservateur ? Es-tu progressiste ? On souhaiterait ne pas avoir à choisir. C'est ce qu'Auguste Comte, c'est le chemin qu'Auguste Comte a essayé de tracer pour n'avoir pas à choisir entre l'un et l'autre. J'aborderai deux points. Le premier que j'intitulerai « La sociologie comme science finale », c'est-à-dire quelle est la place de la sociologie dans la connaissance scientifique. Et le deuxième point que j'intitulerai « De la sociologie au culte de l'humanité », n'oubliez pas la majuscule. Positivisme, c'est donc, je le disais, la réception des leçons de la science. Donc Auguste Comte est un scientifique formé aux mathématiques, formé à la physique. Et il a donné donc ensuite des leçons à Polytechnique. Il est témoin de ses grands progrès. Or, par quoi est caractérisée la positivité de la science moderne et contemporaine ? Par l'affirmation maintenant bien reçue, selon laquelle on ne connaît au bout du compte que des relations. Un positiviste, c'est quelqu'un qui a compris que les leçons de la science, c'est qu'on ne connaît pas la nature des choses, on ne connaît que les relations entre les choses. Personne ne sait ce que c'est que le temps. Alors on dira simplement, écoutez, le temps, c'est la comparaison entre deux états d'un chronomètre. J'appellerai temps ce que je mesure entre ces deux états. Personne ne sait ce que c'est que la température. Je dirais, j'appelle température la comparaison entre deux états d'une colonne de mercure. Personne ne sait ce que c'est que l'électricité avec un grand E. Mais je dirais, j'appelle électricité ce qui se passe quand je mets en présence deux plaques de cuivre dans un certain état. Voilà. C'est-à-dire on ne connaît que des relations, on ne connaît pas l'être. Connaître l'être, c'est l'ambition de la métaphysique. Les grandes leçons de la modernité que Kant a commencé à tirer et que Auguste Comte a en quelque sorte rigidifié dans le positivisme, c'est que il faut renoncer à connaître l'être des choses, on ne peut en connaître que les relations. Or, il se trouve que cette connaissance des relations est efficace. C'est-à-dire que je connais les moyens de produire des effets. Je ne sais pas ce que sont les choses et je sais les utiliser sans savoir ce qu'elles sont. Et je n'ai pas besoin de savoir ce qu'elles sont. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'est l'électricité, puisqu'avec de l'eau, je peux faire de la lumière grâce à l'électricité. Je n'ai pas besoin de savoir ce que sont les choses, il me suffit de savoir en user. Et c'est la raison pour laquelle la pensée d'Auguste Comte a souvent, c'est un contresens, la pensée d'Auguste Comte a souvent pu passer pour scientiste. Si quelqu'un vous dit qu'Auguste Comte était scientiste, vous lui dites, monsieur, c'est un contresens répandu, madame, si c'est une dame, c'est un contresens répandu, mais c'est un contresens, c'est-à-dire qu'Auguste Comte n'est pas scientiste, justement au sens où il ne prétend pas du tout que la science soit la connaissance définitive et absolue. Non, il est relativiste, Auguste Comte. Positif, ça veut dire relatif. Positif, ça veut dire observable. Positif, ça veut dire efficace. Positif, ça veut dire relatif. Vous voyez ce que devient la question de la société. C'est une question qui nous taraude encore aujourd'hui. C'est comment vivre ensemble dans le relatif. Ou trouver un absolu dans une culture où finalement c'est la connaissance et la maîtrise des relations qui règnent. Alors on verra quand on avancera dans les chapitres suivants, si jamais vous revenez, pour votre malheur, cette question ne cessera pas de se développer en sociologie. Parce que la sociologie deviendra de plus en plus l'étude des relations. Quelle est la relation entre le chômage et la lecture? Je veux bien. Donc on va faire des statistiques sur la relation entre le chômage et la lecture. Cette statistique me permettra peut-être d'agir, mais ça ne me permettra pas de dire ce qu'est la littérature, ce qu'est la beauté, ce qu'est le travail, etc. Vous voyez, le passage de la question de l'être à la question de la relation. C'est ce qui engendre chez Auguste Comte la célèbre théorie des trois états dont Auguste Comte pensait qu'elle était fondatrice. Alors Auguste Comte est un penseur systématique, un fondateur de systèmes. Il n'y en a pas beaucoup qui aient la tête aussi systématique que lui. Alors sa pensée est pleine de tableaux. Je vous avais, à ma grande honte, je vous avais préparé un tableau final où il y avait la présentation systématique de la pensée d'Auguste Comte telle que ça l'aurait rendu heureux à jamais. Et puis j'ai oublié ce tableau chez moi pour ma punition, donc vous l'aurez la prochaine fois si je pense à le faire photocopier. Donc Auguste Comte, comme tous les penseurs systématiques, aime les tableaux, les colonnes, donc il y aura trois états de la doctrine des trois états de la connaissance. Doctrine qui a pour but justement de mettre la raison à sa place, de mettre l'exercice de la raison à sa place en lui refusant de s'attacher aux questions métaphysiques, c'est-à-dire aux questions qui touchent l'être, pour au contraire comprendre que la science véritable, c'est la formule d'Auguste Comte, la connaissance des fatalités. Il y a des fatalités de différents ordres. Il y a des fatalités d'ordre matériel, il y a des fatalités d'ordre vital, il y a des fatalités d'ordre social. Une connaissance fondée scientifiquement est une connaissance qui émet, alors on dirait dans notre vocabulaire, un déterminisme, en se contentant de dire qu'un déterminisme, c'est une relation constante. J'ai mis en évidence un déterminisme quand je mets en évidence une relation constante. Que ce soit entre l'échauffement d'une barre de fer et son allongement, ou que ce soit entre le chômage et la lecture. Dès que j'ai mis en évidence une relation constante, je dis, j'ai mis en évidence un déterminisme. Ce qu'Auguste Comte appelle une fatalité. Mais Auguste Comte, évidemment, sait bien que la connaissance des déterminismes a précisément pour effet de s'y adapter. C'est-à-dire que la connaissance des déterminismes n'est pas ce qui ruine la liberté, mais au contraire ce qui rend possible la libération. C'est-à-dire qu'une fois que je sais qu'il y a un déterminisme qui régit la relation entre l'échauffement d'une barre de fer et son allongement, je peux agir. Une fois que je sais qu'il y a un déterminisme qui relie... Mon exemple est saugrenu, je le garde, qui relie le chômage et la lecture, je sais sur quoi je peux agir si je veux augmenter, je ne sais pas quoi, la production des livres ou diminuer le chômage. Ces fatalités cosmiques, biologiques et sociologiques, il s'agit de les décrire pour les maîtriser, puisque la connaissance des relations est ce qui permet la maîtrise sur les phénomènes. Le premier état de la connaissance, nous dit Auguste Comte, c'est l'état théologique. État théologique ou fétichiste, archaïque, dans lequel les hommes se sont donné comme premières explications des phénomènes qu'ils voyaient sous leurs yeux, des volontés. Donc des volontés de divinité, de puissance, Jupiter tenant. Et donc quand je vois des phénomènes de la nature, l'interprétation anthropomorphique, paraît-il spontanée, qu'on peut supposer spontanée, c'est de voir dans ces phénomènes de la nature l'expression de volonté semblable à celle que je peux observer quand moi j'ai une volonté et que je modifie les choses en fonction de cette volonté. Et donc si je vois les choses se modifier, ben, je peux me dire une volonté est à l'œuvre, une volonté est en train est en train d'agir. Et donc cet état théologique nous fournit un certain mode d'explication que l'on peut appeler mythique, mais qui n'en est pas moins une explication assez satisfaisante. Il n'y a pas chez Auguste Comte l'idée que ce soit des connaissances archaïques et stupides. C'est pas stupide de penser que des dieux agissent dans la nature. C'est une explication assez naturelle et finalement souvent satisfaisante, mais qui ne permet pas d'agir. Je peux à la rigueur prier, offrir des sacrifices, mais je redouble en quelque sorte la fatalité en voyant l'œuvre d'un dieu dans les phénomènes que j'observe. Je le dis en passant parce que nous aurons à y revenir, cet âge théologique que Auguste Comte assimile à l'enfance de l'humanité. Donc vous voyez, vous avez un tableau enfance, adolescence, âge adulte, et des tableaux tout le temps. Cet âge théologique est celui dans lequel une communauté était possible. Et donc il y a constamment chez Auguste Comte la nostalgie de la société telle qu'elle existait à l'âge théologique, dont le grand symbole est le catholicisme. Il y a chez Auguste Comte une admiration sans cesse réitérée pour le catholicisme. Il faut faire comme les catholiques. Les catholiques avaient fait une société solidaire, une société harmonieuse, une société équilibrée, une société totale. Il faudrait retrouver tout cela, mais avec les connaissances qui sont les nôtres maintenant. J'évoquais Maurras, vous voyez. Maurras, c'est « il faut retrouver le catholicisme ». Il faut retrouver l'harmonie antique du village et des communautés qui ne battent que d'un seul cœur. Alors que le deuxième âge, c'est l'âge métaphysique, dit Auguste Comte. C'est-à-dire que c'est l'émergence de la raison avec sa dimension critique par rapport au mythe. Donc l'âge métaphysique, c'est par excellence le 17e, le 18e siècle, où la raison s'émerveille de ses capacités d'explication et en profite pour renvoyer aux antiquités les explications théologiques naïves de l'enfance. Cet âge est bien qualifié d'adolescence d'ailleurs, parce que comme l'adolescence, c'est un âge de la critique. La raison chez Auguste Comte, j'ai insisté, hein, elle est relativiste et elle est essentiellement critique, donc dissolvante. Une société qui serait seulement fondée sur la raison serait condamnée à se dissoudre. Parce que sans cesse, y serait réitéré l'esprit critique qui défait les croyances, qui défait les solidarités et qui fait rentrer le couteau analytique dans toutes les articulations. Donc la raison, chez Auguste Comte, qui est l'exercice de la science, est essentiellement analytique et par la même dissolvant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'Auguste Comte un scientiste. Car une société qui ne reposerait que sur la science serait par la même dissolvant. Parce que précisément, le propre de la science, c'est de défaire l'horloge. Et le propre de la science, c'est de ne tout penser que par relation. Et en isolant les différents éléments. Alors cet âge métaphysique va procéder à de grandes abstractions. C'est le moment où on va remplacer Dieu par la nature. Spinoza, Diderot, tout ce que vous voulez, la nature, Kant, la nature a voulu, la nature a fait, la nature, etc. Donc on va remplacer Dieu par la nature, par la force. Il y aura des métaphysiques de la nature, des métaphysiques de la force, tout ce que vous voulez. La vérité, avec un grand V. Mais cet âge métaphysique, donc, est un âge, en quelque sorte, de la... Alors, je reviendrai là-dessus, vous comprendrez mieux cette affirmation tout à l'heure. On peut dire que cet âge métaphysique est un âge de la révolte de la raison contre le cœur. Vous comprendrez cette affirmation tout à l'heure. Patience. Et le... Donc, où la raison joue son rôle destructeur contre le cœur. J'insiste quand même un peu avant de... pour attiser votre curiosité. Ça s'appelle du teasing en latin. Je disais tout à l'heure qu'Auguste Comte arrive après la Révolution française. Quelle est la réaction après la Révolution française ? Le romantisme. Pourquoi est-ce le romantisme ? Parce qu'après la Révolution française, les gens se sont dit « la raison nous fout par terre, la raison nous dissout. La seule chose qui puisse nous unir, c'est le sentiment. » Et donc les romantiques vont cultiver le Naturgefühl, le sentiment de la nature, vont cultiver la primauté du sentiment sur la raison, la primauté de l'émotion, contre l'idéologie rationaliste, car on a massacré les gens, sous les auspices de la déesse raison. C'est en mettant la déesse raison dans Notre-Dame de Paris qu'on a guillotiné quelques milliers de personnes. Et donc le romantisme, c'est la réaction qui rééquilibre en quelque sorte l'humanité en lui donnant pour centre le sentiment et le cœur. Donc Auguste Comte, quand il dit qu'il y a un pouvoir délétère de la raison, c'est bien de quoi il parle, vous voyez. Il pense à la Révolution. Et quand il dit qu'il doit y avoir une primauté du sentiment, rejoignant par là tous les penseurs traditionnalistes, car les romantiques sont traditionnalistes, s'ils retrouvent le sens de la terre, de la langue, de la nation, du sang et tout ça, c'est parce que, justement, ils s'opposent donc aux thèses révolutionnaires, universalistes et rationnelles. La réponse à la Révolution française, c'est la montée des nations. C'est Chopin, c'est les gens qui vont aller chercher dans le folklore. Et donc voilà, caractère délétère de la raison, tout en avouant qu'au fond elle est seule puissante et que ça ne rimerait à rien de vouloir faire un pas en arrière. Donc Auguste Comte appelle rétrograde, dans sa bouche évidemment c'est un terme extrêmement péjoratif, donc toute volonté de retour à l'ordre théologique, de retour à un ordre fondé sur le cœur, si ce retour s'accompagne des superstitions archaïques. Troisième âge, celui que Auguste Comte annonce et préfigure, c'est donc l'âge positif, où précisément on renonce à la question métaphysique. L'âge positif renonce à la question pourquoi, qui est la question métaphysique, et accepte de faire son deuil de cette question pourquoi et se rabat sur la question comment, qui est la seule question que l'on puisse valablement examiner, mettre en lumière. Voilà pourquoi, par exemple, Auguste Comte dit, vous voyez, tout à l'heure j'ai dit on ne connaît que des relations, précisons l'idée, Auguste Comte dit donc on ne connaît pas la cause des choses, on connaît simplement les lois. Si je dis la barre de fer a tel allongement selon telle proportion en fonction de la quantité de chaleur, j'établis une loi qui met en relation deux variables, mais je ne sais pas ce qui est cause. Et donc c'est Auguste Comte qui nous a appris à distinguer la loi et la cause. La cause est une notion métaphysique, la loi est une notion positive qui me permet simplement de mettre en lumière une relation qui me permette d'agir. Cet âge positif sera caractérisé par une connaissance positive, c'est-à-dire le trépied. Alors là encore, et ça passe par trois, c'est un système, c'est-à-dire le trépied, savoir, prévoir, pouvoir. On sait quand on peut prévoir, je sais que je sais quand quand je peux prévoir. L'histoire sera une science le jour où les historiens pourront prévoir. Pour l'instant, ce n'est pas une science, parce qu'on ne voit pas bien comment les historiens peuvent prévoir. La sociologie sera une science, la sociologie est une science, si les sociologues nous permettent de prévoir. Qui ne peut pas prévoir n'a pas une connaissance scientifique. Il y a des opinions. Savoir prévoir. Pourquoi savoir prévoir ? À cause justement de la loi. Si j'augmente la pression, je diminue le volume. Si je diminue le volume, j'augmente la pression. Le savoir prévoir pouvoir. Car évidemment tout cela a pour terme l'action. Et avec cette action, le progrès. Qui va valider la connaissance positive des lois de ce monde. Je vous fais remarquer que la sociologie elle-même, enfin, c'est Auguste Comte qui nous le fait remarquer, la sociologie elle-même est passée par ces trois âges. Premier âge, Aristote. Deuxième âge, Hobbes. Troisième âge, moi. Enfin, moi, Auguste Comte. Et donc, Auguste Comte s'inscrit paisiblement dans la lignée, et je ne trompe pas d'ailleurs, dans la lignée d'Aristote, de Hobbes, bien caractéristique de la modernité, et au bout de cette chaîne, donc, il manifeste l'accès définitif au savoir positif. Cette évolution des trois états, de l'enfance, de l'adolescence à l'âge adulte, passe donc par le développement de la science, qui est, je l'ai dit, la connaissance des fatalités. Auguste Comte, là aussi, procède à une classification, en voici une de plus, qui est la classification des sciences. C'était une chose très à la mode à l'époque, la classification des sciences. On a celle d'Ampère, on a celle de Hegel, enfin on n'en manque pas, et on a celle d'Auguste Comte, qui est la plus claire. Auguste Comte classe les sciences dans l'ordre suivant. Il y en a en tout et pour tout 6, c'est un système, donc il n'y en a pas plus. Mathématiques, astronomie, physique, chimie, biologie, sociologie. Once more, mathématiques, astronomie, physique, chimie, biologie, sociologie. Sociologie, il est en train d'ajouter un mot qui n'existait pas. Hein. Vous n'êtes peut-être pas assez conscient du caractère audacieux d'ajouter à cette liste sociologie, c'est la dernière, et donc qu'Auguste Comte appelle la science finale. Que dire de cette liste ? Plusieurs observations. D'abord, cet ordre est chronologique. Les mathématiques sont apparues dans l'Antiquité, l'astronomie aussi. La physique n'arrive à maturité qu'au XVIIe, la chimie à maturité qu'au fin XVIIIe avec Lavoisier qui n'en a pas moins été guillotiné. Et la biologie commence à peine à l'époque contemporaine d'Auguste Comte, puisqu'on peut dire que la biologie ne reçoit vraiment ses lettres de noblesse scientifique qu'avec Claude Bernard. Donc un à peu près contemporain d'Auguste Comte, un peu plus jeune qu'Auguste Comte, mais Auguste Comte donc assiste avec le biologiste qui a fasciné Auguste Comte, c'est Le Gall, avec la théorie des localisations cérébrales. Car la théorie des localisations cérébrales a été la première esquisse d'une approche mathématisée du vivant. Et en plus, dans le vivant, du siège le plus apparemment libre de toute classification, qui serait le cerveau. Donc cet ordre est chronologique. Mais non seulement cet ordre est chronologique, mais il est logique. C'est-à-dire que c'est un ordre qui va du plus abstrait au plus concret. Donc si quelqu'un vous dit la science commence par le concret, vous lui cassez la gueule. Puis après, vous lui expliquez. Vous lui dites, bon, écoutez, monsieur, expliquez-moi pourquoi on a commencé par les mathématiques, l'astronomie, etc. C'est-à-dire que la science commence par les objets les plus éloignés. Les objets les plus proches sont les plus difficiles, les plus confus. Donc l'intelligence, la rationalité dans sa capacité d'abstraction commence donc par les mathématiques. Je rappelle, je l'ai déjà dit puisque c'est un de mes épisodes scolaires les plus fréquents, je rappelle que abstrait signifie extrait et que concret signifie total. Ne pensez plus rien d'autre. Abstrait, ça veut dire extrait, abstrait, et concret, ça veut dire total. Tout le reste est une source de confusion terrible. Donc les mathématiques sont abstraites, c'est-à-dire que c'est ce qu'il y a de plus extrait. La sociologie, ça serait le phénomène le plus total, le plus englobant, donc le plus complexe. Et d'où cette liste a une troisième signification, elle a une signification chronologique, elle a une signification logique, et puis en même temps, dans la signification logique, c'est une liste qui procède du plus simple au plus complexe. Elle va du plus abstrait au plus concret. Elle va donc aussi par la même du simple au plus complexe. Et du plus lointain au plus proche. Et donc il n'est pas étonnant qu'avec la sociologie, nous ayons l'objet le plus complexe, le plus proche de nous. Nous en arrivons enfin à parler de nous, alors que jusqu'à présent, on a parlé des fatalités extérieures, la matière, le vivant. Là, avec la sociologie, l'homme arrive enfin à parler de lui. Il a commencé par les mathématiques, par l'épure la plus impersonnelle. Mais quand il arrive à parler de lui, il a affaire à la pâte la plus confuse et la plus obscure. Donc qui exigera des travaux autrement difficiles que celles de la physique. Car il est relativement facile de comprendre une loi physique. Comprendre ce qui se passe dans une société, pas évident. Mais n'oubliez pas que tout ceci est présidé par la triade savoir, prévoir, pouvoir. C'est-à-dire que si l'on fait de la sociologie, c'est pour pouvoir prévoir et pour pouvoir agir. Savoir, prévoir, pouvoir. Et voilà donc quelle est la place de la sociologie comme accomplissement de la science, accomplissement de, du progrès que les hommes font dans la maîtrise de la nature et dans un certain renoncement à leurs ambitions métaphysiques. Peut-être les plus savants d'entre vous voient-ils comment cela a pu être la philosophie du radicalisme. Pour ceux qui savent encore ce que c'est que le radicalisme. Deuxième point, de la sociologie à la religion de l'humanité. Parce que la sociologie, je disais, est la science finale. Ça n'est pas tout à fait vrai. Ça n'est pas tout à fait vrai car la sociologie nous dit aussi qu'il n'y a pas de société sans religion. Et que la vérité de l'âge théologique, la vérité du catholicisme, c'est d'avoir compris qu'il n'y a de lien social réel sauf pulvérisé par l'analyse rationnelle, que s'il y a une religion. Mais il s'agit donc de faire le catholicisme sans revenir à des croyances rétrogrades. Vous reconnaissez ici un acteur beaucoup plus récent, M. Peillon. D'ailleurs, M. Peillon utilise rigoureusement la formule d'Auguste Comte, on ne supprime que ce qu'on remplace. La formule est d'Auguste Comte. Vous voulez supprimer la religion, vous ne la supprimerez pas si vous ne la remplacez pas. C'était le programme de M. Peillon quand il était ministre de l'Éducation nationale, qu'il a publié dans son livre, qui s'appelle je ne sais plus comment. Et donc c'est le programme d'Auguste Comte, c'est-à-dire qu'il faut que donner à une société le même tissu que celui que le catholicisme avait, mais en faisant l'économie des croyances archaïques, rétrogrades, dans des divinités sympathiques, certes, mais qui ne nous permettent pas d'agir. Et le critère, c'est savoir, prévoir, pouvoir. La métaphysique est un savoir inutile. Elle ne me permet pas de prévoir, elle ne me permet pas d'agir. En effet, que nous dit la sociologie? Là, on arrive au point essentiel. Que nous dit la sociologie? Eh bien, elle nous dit que l'individu n'a pas plus de réalité que n'en a la cellule dans le vivant. La cellule n'est rien sans l'organisme. La cellule existe dans un organisme, en vue d'un organisme. Et donc, on a bien ici l'idée aristotélicienne de la précession du tout. On a bien l'idée aristotélicienne, la société n'est pas faite d'individus, c'était mon point de départ, mais le tout précède la partie, et le tout n'est pas la somme des parties. Voilà pourquoi Auguste Comte appelle anarchique la théorie des droits de l'homme. L'idée des droits de l'homme, et Auguste Comte ne se trompe pas trop, est une idée anarchique. C'est-à-dire qu'elle est faite pour des individus jaloux de leurs prérogatives, qui vont les défendre les uns contre les autres, ou les conclure quelques accords provisoires. Non, Auguste Comte nous dit, à l'égard de la société, on n'a que des devoirs. En cela, Auguste Comte est traditionnaliste. Un traditionnaliste, c'est quelqu'un qui dit, à l'égard de la société, on n'a que des devoirs. Et pourquoi ? Parce que le tout précède la partie. Et que la partie ne vaut que dans la mesure où elle fait corps avec ce tout. Et que dans la mesure où elle se hausse à ce tout. Donc la sociologie d'Auguste Comte se distingue en sociologie statique et sociologie dynamique. Ordre et progrès. Sociologie statique, sociologie dynamique. J'ai déjà beaucoup développé l'aspect dynamique. Arrêtons-nous à l'aspect statique, c'est-à-dire celui qui exprime la primauté de l'ordre sur le progrès. Et le fait que le progrès qui contredirait l'ordre ne serait pas un progrès. Un progrès qui contredit un ordre n'est pas un progrès. C'est assez clair, c'est un désordre. Donc la sociologie statique, celle qui nous donne l'ordre de la société, met en lumière la primauté de la société sur l'individu. Ceci est vrai, premièrement, chez l'individu lui-même. Ceci est vrai, premièrement, chez l'individu lui-même, puisque chez l'individu lui-même, il y a primauté du cœur sur la raison. Et un être qui perdrait cette primauté du cœur sur la raison vivrait cul par-dessus tête. Or, cette primauté du cœur sur la raison fait que l'altruisme, le mot est d'Auguste Comte, il a eu un succès que vous connaissez, fait que l'altruisme précède l'égoïsme. Et l'altruisme est au-delà de l'égoïsme. Nous sommes naturellement, on retrouve Aristote, l'homme est naturellement ami de l'homme. Il n'y a pas besoin de faire des contrats. On fait des contrats qu'avec des ennemis. Et donc, dans l'individu, la primauté des sentiments altruistes donc est manifestée par la primauté du cœur. Je ne reviens pas à ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des romantiques. Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Cette primauté de la société sur l'individu, elle est déjà dans l'individu au titre du cœur, mais elle est d'autre part dans la société elle-même, car ce qui est premier dans la société, c'est la famille. Pour Auguste Comte, et je crois que c'est lumineux, une société n'est pas faite d'individus, une société est faite de familles. Les Robinsonnades des auteurs comme Rousseau, qui s'imaginent que l'on pourrait faire une société avec des individus, ça ne marche pas. D'ailleurs, d'où viendraient-ils ces individus ? Ils sont les enfants de qui ? Et ils ont quels enfants ? C'est ce que disait Taine. Rousseau prévoit une société faite pour des gens qui naissent orphelins et meurent célibataires. Il y a une primauté de la famille sur l'individu. Et cette primauté de la famille sur l'individu, est essentiel car ça veut dire que la famille est le lieu de la culture du cœur, des premiers sentiments altruistes, appris, nous le verrons tout à l'heure, sous la protection de la mère. Et donc la famille est le passage de l'égoïsme, le passage concret de l'égoïsme à l'altruisme. Et c'est vrai, en plus. C'est vrai, ça s'observe tous les jours. parfois douloureusement, mais donc c'est le lieu où on voit mal comment on apprendrait les vertus sociales à des gens qui n'auraient pas eu une image de la famille, et qui leur permettrait donc ce passage de l'égoïsme à l'altruisme. L'autre réalité sociale qui montre que le collectif est premier par rapport à l'individuel, c'est le langage. Nous retrouvons donc Aristote. Deux phénomènes fondamentaux, la famille, le langage. On n'a jamais vu aucun homme inventer un langage. Le langage est toujours déjà reçu. Nous ne nous comprendrions pas si le langage n'était pas toujours déjà reçu. Et même le langage est le plus ancien fossile. Les mots que je suis en train d'utiliser, ils ont une histoire qui remonte à des millions d'années. C'est émouvant. Et nous nous comprenons à cause de ça. Et si je disais tout d'un coup, il était grilleur, les spictateurs vurniflaient, tout fivoreux, vaguaient les borogoves, les verchons fourgus, j'irais sur la loinde, vous seriez en difficulté. Donc nous ne pouvons utiliser que des mots communs. Le langage fait primer le commun sur le singulier. Et le singulier ne peut pas s'exprimer sans s'approprier cette langue commune. Enfin, donc cette primauté de la société est présente dans l'individu sous la forme de son cœur, elle est présente dans la société sous la forme de la famille, sous la forme du langage, et puis surtout, ça c'est un trait fondamental d'Auguste Comte, qu'il partage avec les penseurs traditionnalistes, cette primauté de la société est manifestée par l'histoire, car l'humanité est faite de plus de morts que de vivants. C'est ce que disent les penseurs traditionnalistes. Burke, le grand penseur traditionnaliste que je vous invite à relire, Burke disait, la société, ce n'est pas un contrat avec les vivants, c'est un contrat avec les morts. Et la société est commémoration. D'où l'importance, justement, de la religion comme commémoration. Et affirmation de cette solidarité radicale des vivants et des morts, qui est donc une certaine forme d'immortalité pour les morts. D'une part, nous sommes les héritiers de tous ceux qui sont morts, mais d'autre part, ceux qui sont morts continuent de vivre en nous. C'est d'ailleurs l'objet des discours les plus traditionnels aux enterrements, qui sont tous conscients. Tous les enterrements sont conscients. D'où l'importance pour Auguste Comte de la religion. La grande découverte d'Auguste Comte, c'est la grande découverte, ils le font tous cette découverte. Benjamin Constant l'a fait, Tocqueville l'a fait, Marx l'a fait, mais ça a un tout autre sens. C'est qu'on ne peut pas penser de société, on va voir Marx dans quelques temps. On ne peut pas penser donc de société sans religion. Pourquoi ? Parce que la religion est le seul liant qui retienne la société de se disperser. C'est un constat. Et si une société n'est pas liée à ce qui la dépasse et la fonde, eh bien, elle se dissémine en individus jaloux de leurs prérogatives. Les libéraux, avec Benjamin Constant et Tocqueville, en sont venus à la même conclusion. Les traditionalistes en sont venus à la même conclusion. Il faut une religion à une société. Alors cette religion, elle a deux fonctions. Elle rallie, ça c'est Auguste Comte, je vous résume Auguste Comte parce que je vois que le temps passe, donc je vous le résume de manière de plus en plus désinvolte, vous m'aiderez à affiner les analyses. Une religion a deux fonctions pour Auguste Comte, elle rallie et elle règle. Religion, ça veut dire relier. Donc c'est ce qui relie les hommes entre eux d'une solidarité plus fondamentale que celle que leur donneraient des conjonctions d'intérêts. Et d'autre part, elle règle leur conduite parce qu'une religion est caractérisée par un rite, par des gestes. La religion règle les corps. La religion n'est pas seulement une affaire de doctrine. On va dire quelques mots de la doctrine. Mais la religion est surtout ce qui règle les corps et leur permet d'avoir une discipline commune, d'avoir des gestes ensemble. D'où l'importance des fêtes. Et Auguste Comte, dans la nouvelle religion qu'il fonde, car il fonde une nouvelle religion, là on va en venir au côté un peu bizarre. Auguste Comte, dans la nouvelle religion qu'il fonde, donc ne manque pas de penser un nouveau calendrier, alors qui sera fait de saints qui seront les savants et les philosophes, donc on aura saint Bacon, saint Descartes, etc. Il y aura aussi quelques saints catholiques, hein, parce qu'il n'y en avait pas idiots, saint Thomas, saint Augustin, sont dans le dans ce calendrier. Et puis, donc, il y aura des fêtes. Il y aura même un truc absolument inouï, je le dis juste 5 minutes pour qu'on voit le côté un peu pathologique du système. Il y aura même des fêtes, non pas de célébration, mais de, je ne me rappelle plus le mot, de détestation. Quoi. Il y aura une journée consacrée à détester vraiment les figures les plus haïssables de l'humanité, qui sont l'empereur Julien, Philippe II et Napoléon. Donc, il y aura une journée spécialement consacrée à la malédiction jetée à Julien, Philippe II et Napoléon. Bon. Je vous expliquerai pourquoi si vous êtes ça. Ainsi apparaissent dans cette société réelle, c'est-à-dire totale, trois pouvoirs, dont il est nécessaire de penser la séparation, qui est celui du sentiment, celui de l'intelligence et celui de l'activité. Agir par amour, savoir pour agir. Once more. Agir par amour, savoir pour agir. Ça veut dire que le moteur, c'est l'amour, c'est le sentiment. Que la science, le savoir, l'intelligence, c'est le moyen, et que l'activité qui va développer le progrès, c'est le but. Le fondement, c'est le cœur, le moyen, c'est l'intelligence, le but, c'est l'activité. Et cela distribue dans la société trois pouvoirs qui correspondent donc à ces formes de l'âme humaine que sont le cœur, l'esprit et le caractère, ce que Auguste Comte appelle le caractère. Et Le pouvoir spirituel est celui qui associe le cœur et l'esprit. Alors, je développe. Le pouvoir moral, le pouvoir intellectuel et le pouvoir matériel. Le pouvoir moral, c'est celui du cœur, agir par amour. Ce cœur, il est éminemment manifesté par deux figures exemplaires que sont la femme et le prolétaire. Et donc, chez Auguste Comte, il y a une pensée de la femme et du rôle moteur de la femme comme essentiellement conservatrice et ayant pour vocation de réveiller sans cesse les sympathies du cœur. Et un monde qui perd sa face féminine, un monde qui perd sa dimension féminine, est un monde sans cœur, emporté par les impatiences de l'action, les impatiences de la rentabilité, de la force. Et il faut que la présence des femmes ramène ce monde à l'amour qui est premier, vous voyez, agir par amour. Ce qui est premier, ce n'est pas l'action, ce n'est pas le succès, ce n'est pas la force. Ce qui est premier, c'est l'amour. Ce qui est premier, c'est le cœur. La raison est délétère. Et ce cœur, donc, est éminemment manifesté par les femmes, ce qu'Auguste Comte a découvert à travers son amour pour Clotilde de Vaux. Si vous vous promenez le long du boulevard Beaumarchais à Paris, vous y verrez une statue de Clotilde de Vaux, dont Auguste Comte était tombé éperdument amoureux sur la quarantaine. Et il voyait, et il dit que c'est Clotilde de Vaux qui lui a fait comprendre l'importance donc, du sentiment dans le lien social. Par bonheur pour elle, elle est morte au bout d'un an, dans une relation qui resta toujours chaste au grand désespoir d'Auguste Comte, lequel avait, le pauvre, épousé auparavant une prostituée qui lui a fait les pires malheurs. Donc il avait eu des déconvenues conjugales. Mais Clotilde de Vaux, vers l'année 1845, lui a fait découvrir le fondement de la société dans le cœur aimant de la mère et de l'épouse. D'où l'importance du catholicisme, car Auguste Comte insiste sur le fait que la grande force du catholicisme, c'est d'avoir promu la femme et d'avoir libéré la femme. Par rapport à toutes les autres populations connues, la femme est libérée sur des terres chrétiennes. Et elle est vénérée sur des terres chrétiennes sous l'espèce de la Vierge Marie. Et Clotilde de Vaux est une sorte de nouvelle Vierge Marie. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Les femmes et les prolétaires. Alors les prolétaires d'Auguste Comte sont les mêmes que ceux de Marx, mais ils n'ont pas du tout la même fonction. Nous sommes au 19e, nous sommes dans une époque romantique. Par quoi est caractérisé le romantisme? Par l'appel au cœur et par l'appel au peuple, le folk, l'or. L'appel au peuple contre l'État, contre le pouvoir rationnel, contre le droit. Le peuple comme solidarité première. Et donc vous avez, courant tout au long du 19e, un éloge du peuple qui est la forme spontanée de socialité. Parce que le peuple est naturellement ignorant, donc indemne de la corruption du savoir, indemne de la corruption de la culture, et il faut se mettre donc à l'écoute de ces prolétaires. J'ai relevé pour vous une formule qui est étonnamment analogique avec une formule de Marx que nous verrons et qui cependant dit exactement le contraire. Auguste Comte dit « Chaque prolétaire constitue un philosophe spontané, comme tout philosophe représente un prolétaire systématique. » Chaque prolétaire constitue un philosophe spontané, comme tout philosophe représente un prolétaire systématique. Vous rappellerez cette phrase quand nous verrons que Marx a déclaré que la philosophie réalisée, c'est la réalisation du prolétariat. Ce qui veut dire tout autre chose, c'est Marx. Mais donc voilà, le prolétaire est sincère, il est sans orgueil. Donc les femmes sont des prêtresses spontanées et les prolétaires sont des... la formule est de Auguste Comte. Hein, et les prolétaires sont des philosophes spontanés. Le pouvoir de l'esprit est détenu par les savants et les philosophes officiels. Le rôle des savants... Nous l'avons vu tout à l'heure, est de dire les fatalités et de dire les lois. Donc, le pouvoir moral incarné par les femmes et les prolétaires, le pouvoir spirituel et intellectuel incarné par les scientifiques sont conservateurs. Chez Auguste Comte, l'intellectuel est conservateur. L'intellectuel est conservateur parce qu'il dit les équilibres auxquels il ne faut pas toucher. Nous avons une image d'intellectuel qui est celle du subversive. Au contraire, si pour Auguste Comte, s'il y a un savoir, il nous dit les équilibres fondamentaux auxquels il ne faut pas toucher. Et ces équilibres fondamentaux, ils nous sont indiqués spontanément chez la femme et le prolétaire, et sur le plan théorique, chez les savants et les philosophes. Seulement, nous l'avons vu, la connaissance des fatalités a aussi pour terme le développement de l'action. Agir par amour, d'accord, et savoir pour agir. Donc en fait, le savoir, même s'il a une phase conservatrice, il est fait en vue de l'action. Et cette action, elle est manifestée par les hommes de caractère. Les hommes de caractère, c'est quoi? C'est les entrepreneurs et les commerçants. Donc j'ai les femmes et les prolétaires, j'ai les philosophes et les savants, et j'ai les entrepreneurs et les commerçants. Alors, les entrepreneurs et les commerçants, eux, ils parcourent le monde, ils vont à l'aventure, ils inventent, ils construisent la tour Eiffel, etc. Et c'est eux qui ont le pouvoir temporel. Il faut surtout que le pouvoir spirituel n'ait pas le pouvoir temporel. Donc Auguste Comte pense que les femmes se perdraient à exercer du pouvoir, les prolétaires aussi, et que les philosophes et les savants se perdraient à exercer du pouvoir. Il faut surtout qu'il n'ait pas de pouvoir. En revanche, il faut donner le pouvoir aux entrepreneurs. Auguste Comte a été le secrétaire de Saint-Simon. Et de Saint-Simon, il a retenu donc le fait qu'une société avance par ses entrepreneurs. Le saint-simonisme est une philosophie de l'entrepreneuriat qui dit donc qu'il faut supprimer tous les politiques et tout ça, et il faut donner le pouvoir aux entrepreneurs. Et c'est ce que reprend ici donc Auguste Comte. Pourquoi faut-il éviter que le pouvoir spirituel ait le pouvoir matériel? C'est parce que le pouvoir matériel s'intéresse aux détails, alors que l'esprit s'intéresse aux généralités, et que le pouvoir matériel encourage les instincts égoïstes, alors que l'esprit ouvre donc à la connaissance de la primauté du social, de ce qui nous permet d'être ralliés et reliés. Voilà. Le cœur qui représente le pouvoir moral, l'esprit qui représente donc le pouvoir intellectuel, le caractère, l'énergie, qui représente donc le pouvoir matériel ou temporel. Auguste Comte glose sur le fait que la distinction du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel est maladroite. Il faut distinguer le pouvoir spirituel et le pouvoir matériel, et le pouvoir éternel, et le pouvoir matériel, et le pouvoir temporel. Et donc les pouvoirs spirituels ne sont éternels qu'à condition de ne pas prendre part aux tâches de l'entreprise. Alors je ne développe pas le fait que Auguste Comte a par là même déployé une religion de l'humanité, avec donc, je l'ai dit, son culte, ses églises. Il a même fait des plans d'églises. Si vous êtes un peu curieux, vous allez à Paris, rue Payenne, bien nommée, c'est dans le Marais, où vous trouvez un temple positiviste à l'humanité. Vous en avez un autre au Brésil, puisque le Brésil a été fondé par des gens qui voulaient adhérer à la religion positiviste. C'est pour ça qu'ils ont donné comme devise « Ordre et progrès ». Et donc ce temple est un temple à l'humanité, car l'humanité est le seul absolu relatif. C'est un absolu au sens où elle nous dépasse, où l'humanité est faite de plus de morts que de vivants, mais c'est un absolu relatif, c'est-à-dire que elle accepte toutes les couleurs, toute la bigarrure, le melting pot des cultures et le progrès. Donc la devise ordre et progrès, Vous devez normalement, si j'ai bien fait mon travail, mieux la comprendre maintenant. C'est-à-dire que le progrès est le développement de l'ordre. Tout progrès qui n'est pas le développement de l'ordre est une récession. Cet ordre, il est fondé sur les harmonies essentielles que le cœur indique. Le progrès, il est fondé sur l'entrepreneuriat, le développement des connaissances scientifiques qui permettent donc de faire des canaux, des voies ferrées, etc. Et c'est ainsi donc que une société totale est coïncidant avec l'humanité pourra émerger. Le Panthéon est un monument positiviste. Vous savez, la frise du Panthéon, elle dit aux grands hommes, l'humanité est reconnaissante. C'est un monument positiviste. C'est-à-dire qu'on commet, c'est l'humanité qui se relie à son passé. L'humanité est faite de plus de morts que de vivants. Elle doit avoir le culte des morts et le Panthéon, dont la croix a été descendue, remontée au moins une dizaine de fois, ça y est, maintenant elle y est, elle n'a pas bougé, Mais il n'empêche que le Panthéon surmonté d'une croix est un gros monument positiviste où on célèbre l'humanité avec un grand H à travers ces grands hommes que sont un certain nombre de héros, de penseurs, de politiques, de femmes. Et on se préoccupe d'avoir cette composition qui permettrait d'avoir et des femmes et des penseurs et des hommes d'action. Donc le positivisme n'est pas loin de... Voilà, j'ai dû suivre tout ce parcours. Je suis vraiment désolé parce que j'avais tellement d'autres choses à dire. J'ai dû suivre tout ce parcours à grands pas. J'espère ne pas avoir été trop obscur. Mais c'est un monde assez curieux, Auguste Comte. Donc j'ai sûrement laissé des obscurités en route. Aidez-moi à les éclairer.